L'AIGECO, en fait, c'est une association qui regroupe les professionnels de l'ingénierie et du génie écologique, donc les gens qui travaillent sur la nature et plus spécifiquement sur la biodiversité. Ça, je vous fais la version courte parce qu'on y aura re-droit plus tard. Mais avant qu'on démarre en fait avec notre première table ronde qui va s'enchaîner à notre petite sortie de terrain ce matin sur l'ancienne décharge de Sorèze, je vais laisser la parole en fait à Alain Schmitt, le maire de Sorèze, qui va nous faire un petit mot d'accueil puisque nous sommes sur sa commune.
Merci Sylvain. Oui, bienvenue à tous sur la commune de Sorèze, mais pas que sur la commune de Sorèze, parce que vous êtes sur un espace qui est géré, construit par la communauté de communes aux sources du canal du Midi. Rien que le nom aux sources du canal du Midi, ça devrait vous faire rêver, en tout cas moi, ça nous fait rêver. Voilà, donc très, très heureux que ce site ait été choisi pour ce séminaire. Voilà. Et puis cette table ronde, ben, elle nous impacte à nous, les élus, puisqu'on est confronté constamment aux coûts, quels qu'ils soient, et particulièrement en cette période où les subventions des collectivités locales et de l'État sont en chute libre par rapport à nos projets. Je sais que certains, ou peut-être la totalité d'entre vous, ont été visités ce matin à la fraîche le site du CIPOM, de l'ancienne décharge, dans le temps lointain où on déchargeait dans les combes les ordures ménagères des habitants sans prendre trop de précautions, et maintenant on s'interroge sur ce que l'on va faire de ces sites. Un exemple des difficultés que l'on peut avoir quand on est élu pour faire avancer un projet écologique. Un exemple très lointain dans le temps, puisque c'est l'explosion de l'usine AZF en 2001, et il a fallu une dizaine d'années pour que les élus se posent la question de ce qui allait être fait du site une fois qu'il serait rénové, parce qu'à l'époque on parlait encore de restauration et de rénovation. Il s'agissait sur le site de l'explosion de faire un parc, de construire un parc ouvert aux habitants, ouvert aux Toulousains, au bord de la Garonne. Et ce parc, ben, ça n'a pas été fait, hein, puisque c'est une ferme photovoltaïque qui l'a remplacé. Le choix de la restauration du site a été abandonné, et le fait qu'il ait été abandonné, c'est non seulement une difficulté technique pour restaurer le sol, mais cette difficulté technique, on sait tous qu'on aurait pu réaliser quand même cette restauration. Le choix qui a été fait, c'est un choix économique avant tout. C'est un choix lié au coût de la restauration. Voilà. Et il a fallu 10 ans pour prendre la décision, il a fallu 4 ou 5 ans de plus pour modifier le projet et en arriver à cette ferme photovoltaïque. Voilà, c'était pour vous signaler, j'ai entendu quelques conversations tout à l'heure, à vous qui souvent êtes technicien et qui êtes peut-être plus éloigné de cette importance du coût que ça a pour les collectivités de restaurer les espaces et d'en refaire des espaces écologiques. On a sur la commune de Sorèze quelque chose qui nous posera un problème dans quelques années. C'est la carrière de Sorèze qui arrive en fin du filon de calcaire, qui un jour, dans 10-15 ans, mais c'est demain, fermera, rendra à la commune les terrains qui sont loués à l'heure actuelle, qui sont des terrains communaux, fera le nécessaire pour, conformément au règlement, à la loi, restaurer en partie seulement ces terrains, et il appartiendra à la commune de les valoriser après. Voilà. Je m'excuse de devoir vous quitter aux alentours de 11h parce que d'autres contraintes et des contraintes de coût me rappellent à la mairie. Mais je vous souhaite un travail fécond et un retour vers nous, en espérant que cela puisse nous aider à résoudre ces problèmes de coûts aujourd'hui et pour l'avenir. Merci à tous.
On va passer à la première table ronde de la journée. Bastien, je sais. venir aussi. On va discuter donc à la suite de la sortie de terrain que certains d'entre vous ont fait ce matin. On va discuter un peu plus en détail, en tout cas, de restauration écologique et effectivement discuter un peu des coûts associés. Alors, on a quelqu'un en visio aussi, si tu veux. Je vous propose qu'on commence par faire un petit tour de table pour que vous puissiez vous présenter, qu'on puisse tous se rendre un petit peu compte de qui va pouvoir nous présenter ces différents éléments, et puis on partira sur une discussion à la suite de ça. N'hésitez pas dans la salle si vous avez des questions au fur et à mesure. L'objectif, donc, on a des éléments de déroulé, on a des intervenants qui évidemment ont plein de choses à dire, mais l'idée c'est aussi de dialoguer, d'échanger avec des besoins potentiellement locaux, en tout cas d'éclairer le plus possible des questionnements que vous pourriez avoir. Donc je te laisse commencer.
Donc oui, pour commencer, bon, le nom va apparaître. Donc, moi, Sébastien Gallet, je suis écologue spécialisé en écologie de la restauration, ça tombe bien. Donc universitaire, et je représente ici particulièrement le réseau Rêvé, hein, donc le réseau d'échange et de valorisation en écologie de la restauration, qui porte cette thématique de la restauration écologique depuis plus de 15 ans maintenant à l'échelle nationale, et avec des liens à l'international avec la Société européenne d'écologie de la restauration. Et donc on a une approche à la fois scientifique mais appliquée. C'est l'écologie de la restauration, c'est une science appliquée, donc on n'est jamais non plus totalement déconnecté des questions de coûts, des questions techniques. Alors, on verra.
Bonjour à tous. Donc moi, je suis Bastien Clément, je suis économiste de l'environnement à la mission économie de la biodiversité. Donc la mission économie de la biodiversité, c'est une entité qui est hébergée par CDC Biodiversité, qui est d'intérêt général et qui est financée par la Banque des Territoires, et qui a pour vocation de permettre l'intégration de la biodiversité dans les processus de décision des acteurs économiques, et de permettre aussi l'accompagnement des politiques publiques qui s'inscrivent dans cette dynamique. Si je devais positionner un peu nos travaux, nous on fait vraiment l'interface en fait entre le monde académique et le monde un peu plus opérationnel, et on tente d'offrir, de permettre en fait ce partage de connaissances aux acteurs opérationnels qui sont moins sensibles aux questions de biodiversité pour qu'ils intègrent ces enjeux. On développe des outils en ce sens, et on participe du coup à tout un travail de valorisation et de diffusion des connaissances au sein de différents réseaux.
Merci beaucoup. Et Delphine Aboui. Alors,
bonjour à tous et à toutes. Donc moi je suis Delphine Aboui, je suis chef d'une mission très transversale au sein de la direction de l'eau et de la biodiversité.
Je suis désolé de ne pas pouvoir être avec vous
aujourd'hui. Mais également plus largement, puisqu'on a produit la feuille de route. Donc qui a été lancé par les ministres la semaine dernière. Voilà.
Et peut-être que vous aurez l'occasion de vous en dire un tout petit peu plus. Je ne sais pas si Sébastien, tu voulais rajouter quelque chose. Mais on peut commencer.
On
a une bonne heure devant nous, et je pense qu'on aura l'occasion de rediscuter un peu de politique publique autour de la restauration. Avant, et en guise de propos liminaires, Sébastien, je te propose de nous définir un peu ces éléments-là, parce que globalement, la terminologie de restauration, elle peut être un peu galvaudée, elle peut amener à plein de concepts, plein de choses différentes qui peuvent sembler moyennement définies ou moyennement arrêtées.
Alors que les choses sont parfaitement définies.
Je te laisse nous parler un petit peu de tout ça.
Oui, c'était l'idée, bien évidemment, l'idée c'est d'échanger, mais ça paraissait important de poser un petit peu les choses avant. Alors, on l'a vu que c'est important, ce matin on en a eu l'exemple. Parce que quand on dit qu'on travaille dans la restauration écologique, c'est pas une blague. Et ce matin, il y a quelqu'un qui est venu en pensant qu'on allait parler des menus bio à la cantine. Donc c'est quelque chose auquel on est confronté. Alors c'est vrai que souvent, maintenant, je travaille sur la restauration des écosystèmes. C'est arrivé qu'on nous demande si c'était de mettre des food trucks sur les espaces naturels. Enfin, bon, bref. Donc c'est pas ça. La restauration écologique, il y a un ensemble de définitions. Donc, cette restauration écologique, donner des définitions. Alors, ces définitions, hein, comme je disais, sont, on va le voir, c'est un peu compliqué, mais il y a quand même des structures internationales et nationales qui travaillent là-dessus. Alors, pourquoi c'est important de définir les choses? Parce que, notamment dans le contexte actuel, hein, on a un règlement européen sur la restauration de la nature, on va avoir un plan national de restauration, et autour de ces termes, effectivement, il y a un nuage de mots. On entend parler de restauration écologique, de solutions fondées sur la nature, de compensation, de biodiversité, de réhabilitation, de génie, d'ingénierie écologique, de renaturation, voire pire, de renaturalisation. Ce qui, quand même, ça fait, moi, ça me pique les oreilles, mais j'ai déjà vu écrit. Et donc, quand on n'est pas spécialiste du domaine, et notamment si on est élu, si on est technicien, si on est des entreprises, parce que dans le côté entreprise, il y a les entreprises et les acteurs économiques de la biodiversité, et ceux d'autres domaines auxquels on essaye d'intégrer les choses. C'est deux choses totalement différentes. Donc on peut facilement s'y perdre de ne pas savoir de quoi on parle. Or, en vérité, il existe des définitions. Des définitions qui sont relativement claires. Donc ça va être la diapo suivante. Voilà. La restauration écologique, on a une définition qui est la définition de SER, donc de la Society for Ecological Restoration. La SER, c'est pas une société savante, hein, c'est pas une société d'universitaires, etc. Dans tous ces domaines-là, nos réseaux, que ce soit REVE ou SER, associent des chercheurs, ce qu'on appelle des praticiens. Alors les praticiens, c'est tout le monde, hein, c'est les bureaux d'études, c'est les gestionnaires d'espaces naturels, c'est tous ceux qui travaillent sur le sujet, et aussi le côté étudiant. Et il y a eu des travaux qui ont été menés pour définir et pour donner une définition consensuelle. Donc quand on dit que c'est pas défini, voilà, on peut facilement, il n'y a pas besoin d'en refaire de nouvelles, et d'ailleurs c'est à peu près celle qui a été reprise dans le règlement européen. La restauration écologique, c'est un processus qui aide au rétablissement d'un écosystème qui a été dégradé, endommagé ou détruit. Elle vise à la préservation de la biodiversité et de l'intégrité écologique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a un objectif, on parle d'espace dégradé. Alors je ne sais plus avec qui on parlait, d'ailleurs effectivement ça nécessite de définir ce que c'est que la dégradation. Hein. La dégradation, alors... dégradé, endommagé, détruit, hein, c'est un crescendo, mais en fait dégradé, c'est quand on perd soit une composante physique, on a perdu des espèces, on a perdu des espèces, ou alors on a perdu une fonction. La circulation de l'eau se fait plus naturellement, le cycle de l'eau est altéré, le cycle de les capacités d'épuration en nitrate ou autre sur une zone humide sont perdues. On a perdu une fonction, on a perdu une caractéristique, donc c'est dégradé. Et on va essayer de rétablir un écosystème fonctionnel et intègre autant que possible. Ça ne veut pas dire obligatoirement qu'on va revenir avant, à ce qui était avant, ça c'est une autre question. C'est un processus, c'est-à-dire, je crois que j'ai dû rajouter un petit peu après. Ah oui, bon, c'est deux choses. C'est un processus, je reviens, donc ça veut dire que c'est l'ensemble de la démarche. Quand on parle de restauration écologique, il ne faut pas imaginer tout de suite les bulldozers, les travaux, etc. La restauration écologique, ça commence le jour où on se pose la question, est-ce qu'il y a un problème? Et ça se termine quand on aura fait une évaluation derrière. Donc c'est tout un processus. On peut avoir différents niveaux d'intervention. Alors ça c'est pareil, c'est ce qu'on appelle le continuum restauratif. Ça fait un peu pompeux, mais en tout cas c'est toute la gamme des actions. C'est important de savoir qu'on peut juste réduire les impacts, essayer d'améliorer un peu la situation. C'est des choses qui se posent notamment en milieu urbain. On peut aller un peu plus loin, améliorer la gestion, la remédiation, il y a aussi là-dedans souvent la dépollution des sols. On peut aller plus loin, c'est-à-dire réhabiliter. Réhabilitation, on ne peut pas tout faire. On va pas, mais au moins permettre l'accueil d'une fonction. Ce matin, sur la décharge, alors si on s'arrêtait là, avant de le redétruire, on peut dire qu'on a rétabli la fonction d'accueil de la biodiversité. On n'a pas rétabli l'écosystème entier, mais on a permis à cet espace qui était une décharge de à nouveau accueillir la biodiversité. C'est la réhabilitation. La restauration au sens strict, c'est vraiment quand on a quelque chose qui est fonctionnel et qui se maintient tout seul, ou en tout cas à peu près tout seul. Donc on a toute cette gamme, elles sont toutes intéressantes, mais il faut d'abord savoir ce qu'on veut, ce qu'on peut faire, jusqu'où on peut aller, jusqu'où on veut aller. Et puis derrière, ça va nécessiter des interventions plus ou moins fortes, etc. Donc la restauration écologique, c'est ça, hein. C'est rétablir un écosystème fonctionnel par différents moyens, un processus, et puis oui, je finis là, processus qui aide au rétablissement. C'est-à-dire que le premier moteur de la restauration, c'est l'écosystème en lui-même, c'est la capacité, c'est la résilience, hein, c'est un terme qu'on utilise en physique, en médecine, en tout ce que vous voulez, en psychologie, laquelle c'est le milieu qui se restaure tout seul, et on vient juste l'aider quand il y a quelque chose qui va. Donc voilà, la restauration écologique, c'est ça. Et il y a plein de choses qui ne sont pas de la restauration écologique. Planter... tout ce qui relève du paysagisme, parfois ça peut être très bien, mais ce n'est pas de la restauration. Donc voilà un petit peu cette définition qui est pour poser le cas de savoir de quoi on parle.
Tu nous as... parfois on peut avoir l'impression que c'est quelque chose d'assez récent, avec potentiellement un manque de recul, mais enfin, c'est des questions qu'on peut avoir en face. Ça date de quand globalement?
C'est un premier recherche. Alors les premiers travaux où on parle de restauration donc aux États-Unis, c'est les années 1920. Il faut préciser. On estime l'écologie de la restauration, donc les premiers travaux scientifiques de synthèse, c'est milieu des années 80. Il y a eu un premier ouvrage en 1987 qui s'appelait Ecological Restoration. Et en fait, on est une science jeune, on peut dater vraiment le début, c'est 1987. Donc c'est-à-dire que les concepts, les définitions, elles ont évolué un petit peu dans le temps. Et c'est vrai qu'on retrouve encore dans certains documents les définitions des années 90, qui on avait l'impression qu'il fallait hyper intervenir et absolument essayer de revenir à ce qu'il y avait avant. Et on trouve encore des gens qui ont ce discours-là, alors que depuis, ça a beaucoup évolué, on est sur une approche beaucoup plus intégrative, plus douce. Mais voilà, ça fait 40 ans, à peu près. Que c'est formalisé, ça veut dire qu'il n'y a pas des choses qui étaient faites avant, mais c'est formalisé depuis une quarantaine d'années.
Avec un consensus au niveau
de ces définitions-là, c'est les dernières, c'est les versions 2019, voilà.
Okay. Je pense qu'on aura aussi l'occasion de revenir sur ce qui est de la restauration, ce qui ne l'est pas, à mon avis, quand on discutera peut-être un peu plus des coûts. Mais pour continuer sur le propos liminaire, Bastien, on voulait voir aussi les objectifs qui sont associés à la restauration de manière globalisée. Comment est-ce que c'est pris en compte à l'international et est-ce que des objectifs sont définis dans ce sens-là?
Tout à fait. Oui, parce qu'on est sur une audience ici qui est sensible à la question environnementale. Je ne vais pas revenir sur les enjeux de biodiversité, ne serait-ce qu'à l'échelle de la France métropolitaine, 20% des habitats qui sont dans un bon état écologique, 80% qui ne sont pas, quasiment 20% des espèces à l'échelle de la France métropolitaine qui sont éteintes ou en voie d'extinction. Donc on pourrait se poser la question de pourquoi restaurer? La première chose aujourd'hui, c'est que à l'échelle institutionnelle, à l'échelle internationale, on a des objectifs par le cadre des accords de Kunming-Montréal en 2022, qui ont été ratifiés, et qui engagent l'ensemble des États qui ont ratifié ce traité, dont la France, à la mise en œuvre de plusieurs cibles à différentes échéances temporelles, dont la cible C2, qui impose en fait aux États de restaurer 30% des écosystèmes dégradés d'ici 2030, ou de s'engager dans la restauration de 30% des écosystèmes dégradés jusqu'à 2030, je fais la partie parce qu'on en discutait tout à l'heure justement. Puisqu'on parle d'un processus de restauration et non pas simplement de la réalisation des travaux et la projection de l'état final de restauration. Ça, c'est la première approche qui est assez centrée sur la dimension biophysique. Mais il y en a une autre qu'on peut mettre en avant aussi. Il y en a même deux autres qu'on pourrait mettre en avant. Notamment la dimension économique. Pourquoi c'est intéressant aujourd'hui de s'engager sur ces questions de restauration pour les acteurs? Quand on considère les écosystèmes comme des entités économiques, on peut les approcher donc comme des actifs qui participent au processus de création de valeur de nos différents modèles économiques. Et on va pouvoir donc décomposer la valeur qui est générée par ces écosystèmes en différentes catégories. Typiquement, je vais avoir une forêt, je vais avoir ma valeur d'usage direct, je vais être capable d'exploiter le bois de ma forêt. Je vais avoir ma valeur d'usage indirect, qui va être liée aux différentes fonctions, qui vont être les fonctions écologiques de ma forêt, va permettre de générer des services écosystémiques, et donc qui va bénéficier directement à mon système socio-économique. On va avoir la valeur d'option. La valeur d'option, c'est potentiellement dans le futur, dans cette forêt, je vais retrouver des essences, des espèces, qui, à la suite d'évolution technologique vont permettre d'être mobilisés dans le processus de création de valeur. La valeur d'héritage et la valeur d'existence, donc la valeur qu'on donne à la forêt pour elle-même. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on a un stock d'impact historique qui a été réalisé par nos activités économiques depuis les 40 dernières années, avec une dégradation continue des écosystèmes qui sont dégradés, et donc une capacité de ces écosystèmes à générer de la valeur qui va être inférieure. Si on souhaite aujourd'hui proposer des modèles économiques qui soient eux aussi résilients, on a cette nécessité de s'investir dans cette restauration et d'être en mesure de restaurer les écosystèmes, non pas seulement aussi pour des questions environnementales, mais aussi pour des questions de soutenabilité de nos modèles économiques. Et dans cette image, on peut aussi voir la restauration des écosystèmes comme une solution par rapport aux différents enjeux que nous rencontrons aujourd'hui. On est en période de canicule, on peut notamment parler du changement climatique, la nécessité de s'adapter au changement climatique. S'investir dans la restauration des écosystèmes aujourd'hui, ça permet notamment de réduire les coûts des sinistres climatiques. Pour rappel, une petite donnée, sur les 40 dernières années, les sinistres climatiques, 100 milliards d'euros. Sur les 5 dernières années, c'est 20 milliards d'euros, à l'échelle de la France, seule France métropolitaine. Si on s'inscrit dans cette dynamique de restauration des écosystèmes, on sait aujourd'hui qu'il y a des solutions fondées sur la nature. On pourra discuter tout à l'heure des débats théoriques et à quel point justement on sort aussi de cette seule cible écologique, puisqu'on intègre des enjeux qui ne sont plus simplement centrés sur cette question de restauration de la biodiversité et des écosystèmes, des fonctionnalités écologiques et tout ce qui s'ensuit, mais d'intégrer la possibilité de mobiliser en fait cette restauration pour l'intégrer dans des schémas de développement qui soient eux-mêmes soutenables et qui permettent de répondre à différents enjeux. C'est une question d'efficience dans la dépense publique, puisqu'on permet de traiter conjointement différentes problématiques environnementales. Et c'est dans cette logique, aujourd'hui, qu'il est pertinent de s'engager sur les projets de restauration. Et comme je le disais, les institutions internationales, européennes et françaises s'en sont saisies. Et je pense qu'on peut passer à l'intervenant suivante.
Effectivement, à mon avis, il y a pas mal d'éléments sur lesquels il va falloir revenir. Il y a plein de petites pierres côté lancées là, mais quitte à parler d'institution, autant peut-être laisser la parole à Delphine sur la manière dont la politique publique, au moins au niveau français, s'est saisie de ces sujets-là, en lien avec tout ce qui vient d'être dit sur les objectifs à l'international. Alors, Delphine, je ne sais pas si vous voulez intervenir.
Ouais, bonjour. Effectivement, on est bien dans la réponse à... On le dit souvent, mais c'est tellement vrai, l'urgence climatique et le maître mot, c'est l'adaptation de nos milieux, de nos écosystèmes. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, du point de vue de l'État, pour rappeler quand même que nous, on a défini un ensemble stratégique qui est aujourd'hui complètement posé. C'est-à-dire qu'il y a quand même la stratégie nationale de la biodiversité 2030 qui engage la France sur la nécessité de stopper l'érosion de la biodiversité et justement de restaurer les milieux dégradés. On a également le plan national d'adaptation au changement climatique, le PNAC. Donc c'est le troisième qui a été lancé l'année dernière. Donc là, l'idée, c'est qu'il y a un très fort accent sur la reconnaissance du fait que la nature est bien un levier d'adaptation majeure aujourd'hui, à travers ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Donc c'est un axe, c'est une mesure dédiée du plan, et un tiers des solutions du plan concernent le périmètre de l'aménagement et de la nature. Et on a également la planification écologique qui est très importante, qui est portée par le Premier ministre, et qui impose de décliner des objectifs au niveau local. Donc tout ça, et on a donc récemment, comme je le disais, la nouvelle feuille de route, mais qui a une vocation ensemblière sur l'ingénierie génie écologique, qui forme plusieurs axes autour de comment solliciter cette ingénierie qui a un savoir-faire très spécifique, très pointu, et pour être sûr qu'on a une qualité des travaux qui est au rendez-vous. Et donc on investit tous les champs, donc les liens avec la maîtrise d'ouvrage, la formation, la structuration de la filière, les soutiens économiques possibles. Ce corpus stratégique. Maintenant, il y a un enjeu de le décliner, de le faire connaître. Et l'approche par les coûts, pour nous, excusez-moi dans mon propos, pour revenir sur le corpus, on a également le règlement à la restauration nature qui nous donne le cadre sur la biodiversité pour les 10 prochaines années. C'est l'équivalent de la directive cadre sur l'eau, mais pour la biodive. Et donc, comment ce qui est important, c'est de savoir qui fait, en fait. Qui fait, c'est bien les collectivités locales, donc c'est bien vous, c'est bien les entreprises de travaux et les bureaux d'études. Voilà, quand on rentre dans le concret, donc maintenant qu'on a ce cadre stratégique, on a besoin de connaître comment faire concrètement, comment passer à l'action. Et donc l'aspect coût, il va être important sur deux volets. Le premier sur combien la France met, entre guillemets, sur la table dans le cadre de la restauration. Donc là, on va rentrer dans ce qu'on appelle le rapportage européen, c'est-à-dire de faire savoir comment on finance tous ces projets de restauration écologique. Est-ce qu'on est bien, enfin, est-ce qu'on est en retard, est-ce qu'on est en avance, qui paye. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Et donc là-dessus, enfin, je reviendrai sur ce propos-là. Et après, sur le besoin, c'est voilà, combien on met sur la table et surtout de combien on a besoin. C'est-à-dire que c'est important de chiffrer, et c'est là où on tombe sur ce que disait notre collègue de la CDC Beauty, c'est combien ça coûte. C'est-à-dire que nous, en tant que ministère, si on doit aller négocier des financements européens, si on doit aller négocier des financements auprès de Bercy, concrètement, on a besoin de détailler nos propos et de dire, bah voilà, un projet de remembrandrage d'une rivière, ça coûte tant au linéaire. Et donc ça, c'est, voilà, c'est extrêmement important, et c'est un peu nouveau, en fait, ce positionnement. C'est aussi une manière de valoriser ce qui est fait par la filière. Voilà, donc cette approche coût, il faut qu'on se l'approprie tous collectivement pour le faire savoir et pour comprendre de quoi on a besoin. Donc juste pour dire sur ça a été abordé évidemment pour le. C'est vrai que les budgets aujourd'hui sont un peu contraints, c'est moins qu'on puisse dire. Et ça ne va pas forcément aller en s'améliorant, malheureusement. Faut être quand même réaliste. Et donc dans le panorama des financements disponibles, on a quand même les fonds FEDER qui sont donc les fonds structurels européens qui sont une source de financement quand même importante. On a les programmes LIFE, on a également les programmes au niveau nationaux tels que le Fonds vert et le programme qui est piloté par le ministère, où on a à peu près de l'ordre de 20 à 25% qui contribuent directement à la restauration écologique. On a les soutiens du monde associatif, évidemment, à travers ces budgets-là. Et ce qu'il faut, on a également ce qu'on appelle les opérateurs de l'État, les établissements publics avec les agences de l'eau, qui ont un financement quand même assez fort. L'Office français de la biodiversité, à travers des nouveautés comme le loto de la nature, c'est quand même 60 millions par an. C'est un peu comme vous achetez un ticket, il y a 43 centimes qui partent sur des projets notamment de restauration. Et la nouvelle perspective, et après je m'arrête, la nouvelle perspective, c'est évidemment, vu la contrainte des financements publics aujourd'hui, c'est d'inventer et d'aller chercher d'autres sources de financement. Et dans ce cadre, on a aujourd'hui les sites naturels de compensation et de restauration et de renaturation, les fameux SNC2R. Voilà, c'est une nouvelle perspective. Et on travaille également sur ce qu'on appelle les crédits nature. Enfin, nous, on les appelle plutôt, pour l'instant, les certificats de biodiversité. Et c'est une nouvelle manière d'inviter les entreprises à venir contribuer justement à tous ces projets de restauration de manière volontaire. Donc là, on n'est pas dans la compensation, on est vraiment sur une démarche volontaire. Et on sent qu'il y a quand même un frémissement, notamment de la part des assureurs, des banques. Voilà, mais tout ça reste à construire, il faut être inventif. Il y aura probablement aussi des mesures du côté, en termes de défiscalisation, voir ce qu'on peut proposer de manière un peu innovante. Voilà, donc je peux revenir sur tous ces points, évidemment, il n'y a aucun problème. Mais tout ça, peut-être la dimension économique, c'est souvent l'air de la guerre, mais encore plus maintenant, il faut qu'on arrive à étayer nos positions. Et également rentrer sur la question du coût, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est aussi combien ça coûte, mais combien coûte l'inaction, c'est-à-dire combien coûtent les autres alternatives, notamment sur le génie civil. Enfin, il ne s'agit pas d'opposer les deux, mais parce que souvent il y a une complémentarité. Mais si on a une approche sur le coût, il faut aussi arriver à démontrer que souvent ces solutions-là, donc de restauration fondée sur la nature, sont des solutions à moindre coût, finalement, que des solutions plus grises. Donc tout ça, il faut l'argumenter, le faire savoir. Voilà. Voilà de quoi on a besoin, puis de tout.
Oui, merci beaucoup. Ça fait forcément écho à ce que Bastien disait juste avant sur le coût de l'inaction, ou en tout cas l'impact économique du changement climatique. Avant de rentrer vraiment dans la question des coûts, parce qu'on va finir par y plonger, mais juste une toute petite question sur comment est-ce que la France se situe par rapport aux avancées européennes, d'une manière générale. Est-ce qu'on est dans la vague? Est-ce qu'on est en avance, en retard? Simplement, très rapidement, Delphine, si vous pouvez nous ou quelqu'un d'autre.
Je ne sais pas si j'ai la réponse. Moi, je dirais qu'on est plutôt bien placé, parce que déjà, on a une filière... Enfin, il ne faut pas l'appeler filière, on l'appelle plutôt secteur, mais du génie écologique, la génie écologique, qui est en pointe. Je pense qu'il faut quand même le dire. On a aussi un corpus de normes qu'il faut faire connaître même au niveau à l'international. On a deux normes AFNOR qui sont intéressantes. Donc je pense qu'on se situe plutôt bien. Après, en termes de dépenses, on a également par le fonds vert ou les agences de l'eau, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'on n'a pas à rougir de ce qu'on met en soutien. Après, les besoins sont tellement énormes que la marche à gravir reste encore assez haute.
Juste par rapport à où on en est par rapport aux autres pays, alors, il y a une filière, il y a aussi une filière de la recherche et de l'enseignement qui est présente. C'est une question qui est très difficile à répondre. J'avais deux idées, j'en ai perdu une. Il y a l'argent aussi. Je disais aussi sur les financements, il ne faut pas oublier les départements, parce qu'avec les ENS qui quand même financent par chez nous, en tout cas, on a beaucoup de projets qui sont financés par les départements, par eux-mêmes et tout ça. Il ne faut pas les oublier, je pense que c'est vraiment important. Sur où on en est, par exemple, c'est une question qu'on ne peut pas répondre. Ça fait des années que SER Europe nous dit, mais est-ce que vous pouvez nous dire en France, en termes de quantité, alors pas d'argent, mais d'opérations de restauration, qu'est-ce qui a été fait? Et on dit, on ne sait pas. On ne sait pas, on est incapable aujourd'hui de dire, l'année dernière, en France, il y a 500 hectares de marais salés, 1200 km linéaires de ruisseaux, de restaurés, etc. On n'en sait strictement rien. Alors, ça va s'améliorer. C'est pour ça qu'il y a des travaux sur des bases de données qui sont mis en place, avec la base de données BDREST et puis Littorex sur le littoral, puis d'autres. On essaie que tout ça soit coordonné pour enfin pouvoir répondre à cette question de dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a fait au cours des 10 dernières années en termes de restauration. L'information, elle existe obligatoirement, mais elle est totalement dispersée. Et donc, on n'est pas capable de dire, est-ce qu'on est mieux ou moins bien, enfin, chacun fait ce qu'il peut, hein. Mais comment, c'est pas dire mieux ou moins bien, mais qu'est-ce qu'on a fait, sur quel type de milieu, sur quels aspects on est en avance, sur quels aspects on peut aller s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Donc ça, c'est une vraie question, on ne sait pas répondre.
Peut-être que moi, j'aurais un avis. Alors, ce serait plus sur les questions de financement. J'allais vous dire que la France est plutôt assez bien positionnée sur ces questions-là, dans la mesure où on a quand même un réseau d'expertise et d'acteurs qui travaillent sur ces questions depuis plusieurs années. On est, à l'échelle française, parmi les seuls dans l'Union européenne à travailler déjà sur les questions de financement, donc les crédits nature, les crédits biodiversité qui étaient mis en avant, les paiements pour services environnementaux qui sont des dispositifs qui sont vraiment intégrés dans les programmes des agences de l'eau. Sur ces questions-là, en fait, on a déjà des outils qui sont sur la table et qui sont plus démocratisés, en tout cas, que dans d'autres pays européens.
Et juste, je pensais aussi sur le financement.
Je peux juste ajouter. Pardon. Non, mais effectivement, je pense que Sébastien, tout le monde a raison au final, mais il va falloir, évidemment, quand tu dis que les départements financent, moi, par exemple, du côté ministériel, je n'ai aucune idée de combien les départements peuvent mettre sur la restauration. Et je ne parle pas du niveau infra-départemental. Évidemment, ça existe. Il y a plein de projets, notamment dans le cadre de la solidarité. Il y a plein de petits travaux qui se font, mais on n'a pas du tout la vision. Tout est extrêmement fragmenté et il n'y a pas de rapportage en tant que tel. Donc ça va faire partie des choses à créer. Et alors l'autre question aussi qu'on commence à aborder, donc, si on a le rapportage par exemple, des fonds fédères sur les régions, parce qu'il y a des systèmes d'information qui existent, par contre on ne nomme pas forcément les mêmes opérations de la même manière. C'est-à-dire que déjà dans la restauration, il y a la restauration active, la restauration passive, enfin je... et après qu'est-ce qu'on met derrière les mots? Par exemple, on va financer des opérations qui vont être liées à l'attractivité du territoire ou la résorption d'un risque inondation. Pour nous, ça va être considéré comme de la restauration, mais ça ne va pas être inscrit de cette manière-là dans le système d'information. Donc déjà, il va falloir qu'on se mette d'accord sur les définitions et les termes quand on rentre dans les budgets, tout simplement quand on rentre la ligne budgétaire, qu'est-ce qu'il y a derrière en fait ?
Si je peux juste apporter un complément. Alors sur les travaux de financement, nous c'est un travail qu'on a piloté à la MEB il y a 2 ans maintenant. Alors c'était pas sur les projets de restauration, mais sur les projets de solutions fondées sur la nature. Et on se rend compte dans les échanges ici qu'on a que justement en fait très rapidement on dévie sur les questions de biodiversité en règle générale. Les financements des ENS par exemple, c'est de la préservation, mais à quel point c'est de la restauration ? Aujourd'hui, le deuxième élément que vous mettez en avant, c'est exactement ça, c'est qu'est-ce qui fait partie de la préservation, qu'est-ce qui fait partie de la restauration, quel type de projets sont financés, quelles sont les opérations qui remontent. C'est sur cet inconnu-là, aujourd'hui, qu'il va falloir se poser la question, et du coup, on a un consensus là-dessus. C'était simplement pour compléter mon intervention de juste avant sur le fait que on a quand même des outils qui sont disponibles. Il manque aujourd'hui justement la donnée pour pouvoir orienter ces outils.
Alors il y a d'autres questions. Alors, déjà, il y a une source de financement qui a été évoquée. Ah, on a perdu Delphine. Qu'on aimerait bien voir disparaître, hein, c'est la compensation, parce que s'il y a compensation, ça veut dire qu'il y a destruction, hein, ne l'oublions pas. Donc si on pouvait perdre cette source de financement, ça serait génial. Et puis qu'est-ce qu'on met dans, quand on dit on finance la restauration? Je vois tout de suite, on va vers les travaux, vers les opérations. Mais financer la recherche sur la restauration, la formation, qui permet, on ne forme pas la restauration, c'est plus une approche globale. Mais tout ce qui est les parties suivi, évaluation, qui font partie de ce processus, attention à ne pas s'arrêter que à telle opération de reméandrage, ou etc. L'amont, l'aval, ça fait partie de la restauration. Si on veut mettre de l'argent, on ne peut pas le mettre que pour les travaux. Il faut aussi un cadre technique, être capable de tirer les apprentissages des réussites et des échecs, qui sont généralement vachement plus intéressants pour apprendre. Et pour ça, il faut avoir pris du recul, il faut avoir de la formation, et ça coûte beaucoup moins cher, hein, les suivis, mais ça coûte toujours beaucoup trop cher. Alors moi, j'ai vu des cas, des refus de financement, des opérations, on va dire, de restauration à plusieurs centaines de milliers d'euros, et quand on dit « Oh, ce serait bien de mettre 10 000 euros pour faire l'évaluation », non, c'est trop cher. Alors, ça a changé un petit peu, mais ça arrive quand même assez régulièrement. Et pourtant, c'est indispensable pour ceux d'après, pour le coup d'après. Et puis, quand on parle d'évaluation, tout de suite, on nous voit avec nos petites bestioles, etc. L'évaluation économique, mais aussi l'évaluation socio-économique, l'évaluation sociologique. C'est un sujet sur lequel il y a du monde qui travaille. C'est les représentations des milieux, de la restauration. Ce sont des vrais sujets hyper intéressants, en plus. Les milieux qu'on restaure, ils sont dans un contexte. Il y a des gens autour, il y a des gens qui les fréquentent. On peut dire... Et ça ne veut pas dire juste les moyens de leur expliquer, non, c'est de comprendre les leviers pour que ça marche encore mieux. Un projet de restauration qui marche sur la biodiversité, qu'apporte des bénéfices secondaires. Alors on va parler de solutions fondées sur la nature, hein, un nouveau mot pour parler de choses qu'on fait depuis un siècle. Mais aussi, il ne faut pas oublier les gens qui sont là. Il y a des gens qui ça ne les intéresse pas, ils ont le droit que ça ne les intéresse pas, mais il faut comprendre comment ça s'intègre dans un territoire. Et tout ça, il faut le financer aussi. Donc c'est encore plus compliqué de définir le financement. Qu'est-ce qu'on finance? Qu'est-ce qu'on met dans l'enveloppe? Qu'est-ce qu'on ne met pas? Et surtout, qu'est-ce qui n'est pas de la restauration? Ça, c'est hyper important. Qu'on ne justifie pas des dépenses qui n'ont rien à voir, où on plante 3 arbres et on dit que c'est de la restauration. Ou 3 arbres, autre chose, j'ai rien contre les arbres.
Donc, a priori, on a récupéré Delphine. Donc, globalement, Sébastien a synthétisé ce qu'il avait dit sur cette dernière phrase. Je voulais juste... faire un tout petit point, parce qu'il y a beaucoup d'acronymes et beaucoup de mots compliqués qui ont été prononcés, donc savoir si tout était limpide pour tout le monde, s'il y avait des questions qui venaient dès à présent, avant que on y arrive sur les coûts, parce qu'on tourne autour du pot. Il y a plein d'autres sujets très intéressants sur lesquels j'aimerais bien revenir, mais est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou des éléments, des acronymes ou autres, qu'il faudra éclaircir?
Moi j'ai une question concernant...
Attendez, il y a un micro qui arrive pour Delphine.
J'ai une question concernant le périmètre de la dégradation dans lequel on veut refaire de la restauration écologique, qui peut nous toucher ici sur le territoire, notamment les feux de forêt.
C'est pas obligatoirement de la dégradation.
C'est alors, j'y viens, les feux de forêt et les coupes de bois. Il y a un changement quand même au niveau écologique du milieu quand ces deux événements arrivent. Et on voit que sur les feux de forêt, par exemple, auparavant on replantait. Aujourd'hui on ne replante pas forcément. On laisse la nature se régénérer. Donc on remplace un coup de replanter par un coup de observer ce que vous disiez, suivre, évaluer, mesurer, etc. Sur les coupes de bois, on a un coût qui est normalement pris en charge par l'exploitant de replanter, etc., sous le contrôle de l'ONF dans les zones qui sont de sa compétence. Donc là, il y a l'intervention du privé, puisqu'on a beaucoup parlé de financement public, etc., mais l'intervention du privé. Donc je voulais essayer de comprendre un petit peu mieux comment tout ça s'articulait. Donc pour mieux résumer ma question, d'une part, le périmètre de la dégradation écologique, est-ce que c'est toute forêt et ces coupes de bois sont prises dedans? Et deuxièmement, comment les coûts s'articulent entre l'évitement des coûts si on ne replante pas, par exemple, le coût de l'observation et le coût du privé qui, lui, va dans son... Comme pour les ENR dont on a parlé ce matin, il y a une enveloppe qui est prévue pour la remise en état du site, par exemple, dans son état initial. Voilà, j'espère que ma question est claire.
Juste donner deux éléments rapidement pour pas trop. Alors c'est hyper compliqué parce que ça nécessiterait de définir ce que c'est qu'une forêt. Parce que si c'est une plantation de pins, etc., déjà c'est pas une forêt. Et couper les arbres, ça peut être restauré. Voilà, c'est une opération de restauration. C'est des choses qu'on a dans beaucoup de cas sur les landes américaines, quand ça a été planté avec des sitkas, etc. La restauration, la base, c'est d'enlever ça. Si on va dire c'est une forêt naturelle, spontanée, là on peut effectivement estimer que une coupe est une dégradation, mais si elle est en bon état, ça va repousser tout seul. Ça fait partie d'un cycle. Donc en fait cette question sur la forêt s'applique assez mal. L'incendie, c'est un peu pareil. Si la forêt est en bon état au départ, elle va repousser toute seule. Alors sauf si ça brûle tous les ans, évidemment, on a des problèmes, surtout en milieu méditerranéen. Mais quelque part, un incendie à un moment, c'est pas obligatoirement une catastrophe écologique. Si c'est une forêt exploitée, ça peut être économiquement gênant pour l'exploitant, mais d'un point de vue écologique, il y a quelques oiseaux qui vont cuire, mais c'est pas très grave. Non, mais en écologie, on ne s'intéresse pas aux individus, en fait, on s'intéresse aux populations, etc. Donc toujours relativiser un petit peu. Donc le cas de la forêt, c'est un peu particulier. C'est pareil, une forêt qui est abîmée par une tempête, c'est pas la dégradation, c'est un truc naturel. Il faut la laisser faire tout ça. Donc derrière, le coût, c'est vraiment différent. Si on est sur une exploitation forestière, donc un champ d'arbres, c'est pas la même chose qu'un champ de maïs en plus gros. C'est dur plus longtemps. L'exploitation est plus longue. Je caricature un peu, mais c'est presque ça. Ou alors, est-ce que on est sur un boisement spontané, plutôt en équilibre naturel? Là, l'exploitation, mais si c'est en bon état, ça va repousser tout ça. Et c'est vrai que la régénération naturelle, c'est la diapo que j'avais oubliée, où j'avais un peu les termes, c'est la meilleure des solutions. Et il y a pas, il y a des coûts qui sont limités. Donc voilà, le cas de la forêt, c'est quand même un peu particulier, parce que la plupart de nos forêts sont des forêts artificielles, et ne sont pas de la forêt, en fait. Enfin, pas la plupart, une partie.
Pour rajouter un élément, et pour aller dans son sens par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur la visite de terrain, ça pose vraiment la question en fait de quelle est la cible écologique qu'on met derrière et du coup quelles sont les opérations pour revenir sur la trajectoire à la suite de l'aléa climatique. Ça, c'est des choses qui sont définies par les acteurs de terrain et parce qu'on s'est posé comme question à la base sur quel était l'état de référence, quelle était la trajectoire qu'on mettait en œuvre et quelle était la cible qu'on allait viser. Donc le périmètre va être fonction du contexte en lui-même territorial.
Questions qui vont être posées ou ça dépend.
C'est encore pire parce que il faut aussi, bon, on va regarder combien ça coûte, mais je vais y arriver. Mais globalement, vous mettez le doigt sur un sujet qui est particulièrement pertinent. Qu'est-ce qu'est de la restauration? Qu'est-ce qu'est de l'ordre de la remise en état? Qu'est-ce qu'est de l'ordre de la compensation? En fait, il y a plein de mots-clés qui ont été balancés un peu tout à l'heure. Et qui amènent à des... Alors, les coûts seront probablement tous les mêmes, mais par contre, qui paye et quel dispositif financier on peut solliciter, ça a potentiellement rien à voir et des conséquences démocratiques, par exemple, ou en tout cas d'organisation économique qui sont complètement différentes. Peut-être que ce sujet-là, on peut se le garder sous le pied pour essayer d'en parler ou essayer de détricoter, sachant que c'est globalement compliqué parce que tout est lié. Mais allons-y, Bastien, est-ce que tu peux nous dire combien ça coûte?
Alors, malheureusement, non, je ne vais pas pouvoir dire ça aujourd'hui. Non, mais c'est vrai que, comme l'a dit Delphine tout à l'heure, la question des coûts de la restauration, en fait, quand on a abordé le sujet, c'est une thématique de travail qui est revenue nous sur notre table cette année. Après avoir travaillé justement sur les dispositifs de financement, on s'est demandé quels étaient les leviers pour accélérer la restauration écologique à l'échelle française. On en a trouvé trois pour l'instant, donc creuser sur la demande privée, en fait, pour les acteurs pour s'engager sur ces dispositifs, les incitations, les mécanismes d'incitation qui peuvent exister pour s'engager aussi sur ces questions-là, et la question des coûts. Parce qu'aujourd'hui, il y a une réalité, c'est cette nécessité de disposer d'éléments technico-économiques pour mettre en œuvre la décision. Quand vous êtes une collectivité territoriale et qu'il faut arbitrer entre la rénovation d'une école maternelle et la restauration d'un milieu, vous avez le besoin d'avoir ces données technico-économiques pour être en mesure de se dire « est-ce que je suis en capacité de porter l'étude ?» On sait très bien que, comme ça a été évoqué tout à l'heure, le sujet, il est fonction du contexte territorial. Les opérations qu'on va réaliser, elles seront fonction du contexte. Et donc, les données d'évaluation qu'on va pouvoir fournir sur les coûts, elles vont pouvoir varier à la hausse, à la baisse. Mais disposer d'informations pour, j'allais dire, les clients que vous avez en face, c'est déjà une information pertinente. Donc, on s'est attelé, on a commencé à travailler, puisqu'on sentait qu'il y avait vraiment des enjeux autour de ces coûts de la restauration, on a commencé à travailler avec l'IGECO, du coup, sur l'identification des besoins. Et donc, dans ce cadre-là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris contact avec plusieurs acteurs, dont certains sont dans la salle, UPGE, on a pris contact avec Madame Delphine Aboui, on a pris contact avec l'UICN, avec l'INSEE, avec la Fédération des Parcs Naturels Régionaux, avec les agences de l'eau. Donc on a pris contact avec plus d'une vingtaine de structures sur ces questions-là pour définir les différents enjeux associés au coût de la restauration. Le premier, c'est vraiment celui que je vous évoquais. J'ai mes petites notes quand même. Mais le premier, voilà, c'est cette nécessité de disposer d'éléments pour quantifier les opérations exemptées. On ne dit pas que ça va être un outil de préchiffrage. On ne dit pas que les données qu'on va vous mettre sur la table vont permettre de questionner les devis que vous allez en face. Par contre, dans cette question d'arbitrage, de planification à long terme, l'acteur, peu importe l'échelle, l'échelon territorial, que ce soit l'échelle d'un EPCI, que ce soit l'échelle de l'État, comme on le disait tout à l'heure, dans une démarche de planification, il faut avoir des données sur combien ça peut coûter et aussi sur les différentes opérations qui sont potentiellement qui peuvent potentiellement être mises en œuvre. Comment arbitrer entre ces différentes opérations? On parlait tout à l'heure de la question de quels sont les sites en fait qui seront à restaurer, mais à budget constant. Comment on fera l'arbitrage entre du réamendrage de rivières, du travail sur les écosystèmes agricoles, sur du travail d'un écosystème forestier, et après comment on décline, ou entre les différentes opérations, qu'est-ce qui est à prioriser? Et bien ça, aujourd'hui, sans données technico-économiques sur les coûts, on n'est pas capable de réaliser ce travail. Ça, c'était vraiment le premier enjeu. Qu'on s'engage d'ailleurs donc sur une question de... Parce qu'il y a la question compensatoire, restauration... Nous, pour l'instant, on peut arbitrer entre réglementaire et volontaire. Très clairement, le réglementaire, on a la compensation. Vous avez un objectif cible qui est fixé dans le cadre de votre autorisation environnementale, qui est fixé donc par les services déconcentrés de l'État. Peu importe la question du coût. Et ben en fait, ne pas avoir ces informations-là pose quand même une question sur la capacité du porteur de projet à mettre ou non en place son projet d'aménagement. Et on se rend compte que du coup, on a une information qui permet quand même de servir de plaidoyer à la préservation. On ne se place plus ici dans une logique de question de réflexion sur, vraiment sur la restauration écologique, mais sur avoir des données sur les coûts de la restauration et combien ça coûterait de restaurer un milieu permet aussi de dire bah, c'est peut-être plus intéressant économiquement finalement de le garder tel quel. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième, on a longtemps cherché à travailler en économie de l'environnement sur la question des bénéfices. C'est une question qu'on aurait pu poser tout à l'heure, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure sur les différentes composantes de la valeur liées aux écosystèmes en règle générale. Et bien, en réalité, aujourd'hui, à part la valeur d'usage direct, donc c'est-à-dire ce qui est réellement intégré dans les modèles économiques, la valeur de l'écosystème, on va avoir énormément de mal à la prendre en compte, elle va être sous-évaluée, et donc du coup, si on a une approche par les bénéfices que génère le projet, et bien, la plupart du temps, on l'a vu tout à l'heure sur le projet, c'est-à-dire que le projet de restauration qui a été mis en œuvre génère peut-être des bénéfices à l'échelle territoriale, mais en réalité, puisqu'il n'y a pas de valeur d'usage sur le site, on va préférer aller sur la mise en place d'un parc éolien. Photovoltaïque, pardon. Mais aussi des éoliennes sur le territoire. Des éoliennes sur le territoire. On va préférer aller sur un usage du site, puisqu'on est capable de quantifier monétairement l'usage. Donc ça, c'était un peu les deux premiers points. Le deuxième, c'est cette nécessité, et ça a été évoqué aussi par Madame Aloui, c'est de disposer d'un cadre d'évaluation harmonisé entre les acteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des données qui existent, il y a des REX qui existent sur les coûts de la restauration écologique. Mais la manière dont elles sont produites et la manière dont elles sont diffusées sont très souvent partiellement, voire quasiment pas mobilisables par les autres acteurs quand ils s'approchent, quand on a une approche un peu opérationnelle de justement comment on souhaite leur mobiliser. Typiquement, on parlait tout à l'heure... au sein de ma direction, c'est un peu particulier, mais on a un programme, un fonds de dotation, le Fonds Nature 2050, qui finance par qui capte des financements privés et qui va aller financer des projets de restauration, mais c'est surtout des projets de solutions fondées sur la nature. Tu pourras revenir sur la distinction après, justement. Je pense que ça aurait été intéressant de le faire avant. Dans le PowerPoint. Mais on fait des fiches REX, bien évidemment. Maintenant, quand on présente les fiches REX aux porteurs de projets qui souhaitent mettre en œuvre des projets de restauration, les données qu'on reçoit sont partiellement mobilisables, voire pas du tout mobilisables, et les aident pas dans la construction technico-économique de leur projet. Donc, il y a cette nécessité de se poser, d'avoir un outil qui permette de séquencer, en fait, les différentes opérations, les différentes grandes opérations de restauration, en grande partie, d'identifier les actions, donc les lignes de dépenses qui les composent, d'identifier les fourchettes de coûts. Encore une fois, on sera sur des fourchettes, on ne pourra pas être exhaustif. Ça, on en est conscient, on est très humble sur cette approche. On sait que ce n'est pas une approche qui pourrait être exhaustive. Mais il y a cette nécessité de, par exemple, identifier les variables qui vont venir impacter ces lignes de dépenses à la hausse ou à la baisse et qui vont vous permettre d'identifier si votre projet est dans une fourchette haute ou une fourchette basse. Ça, c'est des informations aujourd'hui qui sont pertinentes pour les acteurs. On parlait tout à l'heure de la question des financements. Vous me dites si je suis en...
Non.
Ok. On parlait tout à l'heure de la question des financements. Quand on va se poser la question de, justement, on a 30% des espaces qui vont être restaurés, quel type d'action, en fait, vont être éligibles au financement? Et ça, aujourd'hui, avoir des données, du coup, sur les coûts des opérations et les coûts des différentes lignes de dépenses au sein de ces opérations, va permettre de discuter, justement, la hauteur des financements qui vont devoir être mis en face pour couvrir une partie des coûts du projet et en fait que la dépense publique soit utilisée de manière efficace. Et on a du coup... c'est un peu un listing. La dernière approche, toujours dans cette question d'harmonisation des pratiques et de comparaison des projets, d'arbitrage, c'est cette capacité, on en revient en fait à la question de la mobilisation des projets de restauration écologique pour répondre à des enjeux qui sont plutôt anthropiques, pour répondre à des enjeux sociétaux. Donc là, on parle vraiment des solutions fondées sur la nature. Je ne sais pas si tu le présentes après, mais solutions fondées sur... C'est présenté après. Aujourd'hui, quand on est sur des collectivités territoriales, des acteurs, qui même à une échelle plus large, à une échelle institutionnelle plus haute, quand on cherche à mettre en place les dynamiques de planification de réduction du risque, et bien en fait on va préférer les tourner vers des solutions grises qui ne bénéficient pas à la biodiversité, simplement parce que la solution grise, on est capable de la budgétiser. Simplement parce que le fait d'avoir des données économiques permet de rassurer sur la prise de décision et donc permet d'engager l'acteur, enfin va faciliter en fait la prise de décision vers ce type de projet. Alors qu'on sait, ça a été rappelé, que globalement, c'est des données du World Economic Forum, si je me rappelle, les projets de solutions fondées sur la nature sont 50% moins chers sur l'ensemble du cycle de vie que les projets de solutions grises quand on cherche à répondre notamment à des enjeux d'adaptation au changement climatique. Ça peut être fonction du contexte territorial, encore une fois. Mais on sait que en fait, la répartition des coûts va être différente, c'est-à-dire que les coûts d'investissement vont être relativement moins chers, mais par contre, ce qu'on évoquait tout à l'heure, on a besoin d'avoir des coûts de suivi, enfin des enveloppes dédiées au suivi et à l'entretien du projet sur l'ensemble de la durée de vie. Donc voilà. On est arrivé du coup sur un listing de ces enjeux, on est en train de finaliser la production d'une note qui permet de recenser tous ces enjeux et recenser aussi les défis méthodologiques, parce qu'on est bien conscient qu'il y en a. C'est une approche. En discutant avec les différents acteurs plutôt opérationnels, on sait qu'il y a des défis méthodologiques liés à la construction de ces coûts, qui nécessitent par exemple de se poser la question de, en fait, quand on parle de coût de la restauration écologique, de quel type on parle, de quel type d'opération, quel est le degré de finesse qu'on va aller chercher dans la collecte des données. Donc on a tout un panel d'enjeux méthodologiques sur lesquels, de toute façon, on va devoir se poser. C'est des choses avec lesquelles on discutera avec l'AIGECO, mais aussi avec les services de l'État, avec Madame Alboui, pour que ces données soient le plus facilement mobilisables pour les acteurs et soient réellement permettent en fait une harmonisation des points de vue sur cet enjeu-là et permettent d'ouvrir la discussion. Voilà.
Oui, juste si tu peux réagir sur déjà expliquer les solutions fondées sur la nature rapidement et les solutions grises aussi. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde.
Solution fondée sur la nature, c'est un cadre, mais c'est un cadre, c'est-à-dire la définition, c'est des opérations qui répondent, qui s'appuient sur les fonctionnements des écosystèmes pour répondre à des enjeux sociétaux avec un bénéfice pour la biodiversité. Donc la biodiversité n'arrive qu'en deuxième rideau. Le bénéfice pour la biodiversité, ça va être par exemple répondre au risque d'inondation par la restauration de zones humides plutôt que mettre par des digues. Ça va être protéger le littoral plutôt par la restauration de marais littoraux, par exemple, plutôt que maintenir des digues. Sachant qu'en plus, les marais littoraux captent jusqu'à 100 fois plus de carbone qu'une forêt, donc c'est tout bénef. Donc,
voilà. Les digues étant la solution grise.
C'est ça, la solution grise, c'est le béton, c'est on sait comment ça marche, et encore, voilà. On sait combien ça va coûter, on va mettre du béton, on va renforcer les digues, on va mettre des enrochements qui ne servent à rien, mais au moins on aura des choses. Voilà, donc c'est solution fondée sur la nature, hein, c'est un cadre, mais dans la plupart des cas, en vérité, c'est l'ingénierie écologique et de la restauration écologique. C'est pour ça que quand je dis c'est un nouveau, c'est un nouveau mot pour des choses qu'on fait depuis un siècle, c'est un cadre. Donc ce cadre, il est intéressant en termes de mobilisation des acteurs. Par contre, n'oublions pas qu'il s'appuie sur des pratiques et des connaissances qui existent depuis un siècle. Et c'est ça qu'à certains moments, certains organismes, comme l'IUCN, qui a mis ça en valeur, oublient totalement qu'on sait déjà faire. On sait faire. Les entreprises savent faire, la recherche sait faire, etc. Après, sur les coûts, je vais faire mon chien encore. Pour moi, c'est illusoire de vouloir dire, je fais exprès, de restaurer tant mètres linéaires, de reméandrer un kilomètre de cours d'eau, ça coûte tant. Parce que ça va aller de quasi zéro à plusieurs millions. En fonction de la situation, on a en Normandie notamment, au-dessus du Mont-Saint-Michel, là, il y a eu du micro-reméandrage, ils ont mis un fil à vache de chaque côté du ruisseau. 20 ans après, il y a un joli petit... C'était un truc... qui était linéaire, il n'y avait quasiment rien. Il y a une ripisylve qui s'est reconstituée totalement naturellement. Ça a coûté zéro. Et ça marche très bien. À côté de ça, on a des opérations de reméandrage, qui sont nécessaires quand le ruisseau il a carrément été décalé, etc. Ou on y va au bulldozer, etc., etc. Et là, ça coûte très cher. Et donc, voilà. Et c'est très difficile, parfois difficile de dire à l'avance. Il y a aussi un risque, c'est... Et parfois, le plus cher n'est pas mieux que le moins cher. Donc on peut inciter à dire, ben voilà, si vous faites du reméandrage au bulldozer, ça coûte tant, oh, c'est bon, j'ai l'argent, j'y vais. Alors qu'en fait, si ça se trouve, on aurait pu faire un truc beaucoup plus simple,
qui est moins cher et qui aurait permis de financer autre chose.
Donc en fait, c'est hyper, pour moi, c'est très très compliqué. Ou alors...
On va retomber sur un système de finesse, ça...
Ah, c'est... Micro. Ah si, c'est bon.
En fait, ce qui est intéressant, effectivement, c'est d'avoir des racks, d'avoir des retours, mais très diversifiés. Il en faut beaucoup. Alors c'est pour ça qu'un lien avec les bases de données, si je reviens sur VDRS, si on arrive à avoir des coûts, ça permet de faire une...
ça permet de voir à peu près la gamme des coûts. Mais on ne peut pas dire restaurer un hectare de lande, restaurer un hectare de marais, restaurer un kilomètre linéaire, 1000 mètres linéaires de ruisseau, ça coûte tant. Ça, c'est impossible. Voilà, il y a trop de paramètres, il y a trop, même interrégionaux, si on fait la restauration de rives, par exemple, de ruisseaux. Il y a certaines régions, pour que ça revienne, il va y avoir de la plantation d'hélophytes, de plantes qui est nécessaire. Vous faites ça en Bretagne, ça ne sert à rien, ça revient tout seul. Un an après, vous plantez rien et pouf, c'est tout vert, c'est magnifique. Pour des raisons de fonctionnement hydrologique, écologique, etc. Donc encore une fois, voilà, c'est totalement différent. Et donc, bon courage, mais à mon avis, c'est impossible. Par contre, ce qu'il faut donner, c'est vraiment les REX, avoir une base de données beaucoup plus complète, beaucoup plus de références qui permettent de se donner des idées et puis d'avoir des scénarios aussi. Sur un projet, bah, ça peut vous coûter tant si vous faites ça, ça peut vous coûter tant si vous faites ça. Et là, le choix, il est intéressant. Parce que si on dit ça coûte tant, c'est trop cher, bon, bah, je fais rien. Ah, ok, l'idéal, ça serait peut-être de mettre 1 million, mais peut-être qu'avec 100 000, enfin, je veux des chiffres comme ça, hein, on peut peut-être faire quand même quelque chose, on peut peut-être être dans la réhabilitation. On va peut-être pas faire la restauration, mais on peut avoir au moins de la réhabilitation, voire la remédiation, à moins beaucoup, mais c'est déjà ça de prix. Donc, voilà, il faut quand même... faut pas croire qu'on va avoir des catalogues. Et mais je suis sûr que c'est comme ça que c'est dit.
Merci pour le droit de réponse, du coup. Moi, je suis pas seulement d'accord avec ce qui a été mis en avant. C'est-à-dire que, en effet, il y a potentiellement des solutions de restauration qui ne nécessiteront pas autant d'interventions. Mais ça se passe à l'échelle opérationnelle. Ça ne se passe pas à l'échelle de la planification, ni à l'échelle de la définition des budgets avec des acteurs qui...
Si on n'en tient pas compte, dans ce cas-là, ça veut dire que ça sert à rien.
Dans le processus de décision, on aura d'abord la décision de combien on a d'enveloppes pour restaurer, et par la suite, on aura cette question de comment on dépense cette enveloppe. Et c'est là où sortir sur des approches plus territoriales et se mobiliser de l'expertise des acteurs qu'on a notamment ici présents, c'est pertinent. Vous avez évoqué notamment BDRest. BDRest, on a rencontré Anne Vivier qui travaille sur ce secteur, sur ce projet, qui est en effet très pertinent, qui va dans le bon sens. La seule question, c'est à partir de quand est-ce qu'on aura la capacité à collecter les données, comment on va collecter les données. Parce que si on arrive sur... dans les défis méthodologiques qu'on a sur les coûts de la restauration, il y a comment on collecte les données sur les coûts. BDRest, la manière dont ça s'oriente aujourd'hui, nous, on souhaite totalement s'ancrer en fait dans la compréhension des écosystèmes et dans la manière justement dont sont définies les cibles. Il y a notamment des travaux qui ont été faits sur l'arborescence, des actions potentielles, des cibles écologiques. Mais BDRS, pour l'instant, s'oriente vers une collecte de données sur la base de projets. Ce qui est extrêmement compliqué quand vous allez discuter avec des acteurs économiques pour collecter des informations sur l'ensemble d'un projet, ben en fait, c'est des informations qui sont confidentielles. Et donc, aller collecter ces informations, c'est beaucoup plus complexe. Que déstructurer l'information et aller sur les coûts de l'opération, c'est des choses qui sont plus réalisables. Ça va être un travail de longue haleine, je suis entièrement d'accord. C'est pour ça qu'on s'est associé avec la IGECO pour aller dans le bon sens sur ces questions-là et avoir justement les retours de cette approche aussi plus opérationnelle sur la faisabilité réelle et la mobilisation réelle de l'outil. Sur cette approche scénario, encore une fois, la manière dont on pourrait disposer l'outil, ça serait plutôt là-dessus. Comme je l'évoquais tout à l'heure, on aura en fait des fourchettes de coûts, et l'idée c'est d'avoir dans ces fourchettes de coûts les grandes étapes de cette restauration. Travailler sur le sol, est-ce qu'il y a nécessité de dépolluer le sol, quelles sont les étapes de végétalisation, donc quelles sont les lignes de dépenses qui peuvent être intégrées, etc. Et d'avoir surtout aussi, de par les informations qu'on va collecter, les facteurs qui, pour les entreprises, font varier ces coûts. Et ça, c'est des informations qui sont aujourd'hui pas, euh, pas disponible. Et je finirai en disant, du coup en étant aussi provoque que toi, mais je pense que sur le sujet de la construction, et je parle vraiment de la construction immobilière, on pourrait dire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'un projet de construction aujourd'hui, si vous dites bah, « j'ai besoin de 100 immeubles, de 100 appartements, de 100 logements », on va vous répondre exactement les mêmes données. La personne opérationnelle sur le terrain va vous répondre la même chose. Donc je pense qu'il est possible d'aller dans leur sens, enfin d'aller dans ce sens-là en tout cas, et de construire des référentiels pour que la restauration écologique soit prise au même niveau de sérieux que la construction immobilière plus classique.
Et donc vous aurez compris que la restauration, comme on parle d'un processus qui part d'un endroit qui n'est jamais le même, qui part d'un endroit qui n'est jamais le même, on ne sait pas trop combien ça coûte. Il paraît de résumer. Est-ce que vous avez des questions de la même manière, des remarques je pense qu'ils n'iront pas plus loin sur le coût, hein, mais...
C'est en cours de construction, les résultats, on les attend pour l'année prochaine, premier... Là, on est vraiment en phase de construction de la même méthodologie, de modification de gens. Et on va construire vraiment l'outil, normalement à partir de cette...
Juste pour illustrer sur les étapes, alors, c'est un schéma qui est construit sur le cas de la dépolarisation, mais peu importe, hein, où en fait on a les étapes d'un processus de restauration écologique et en fait si on regarde les coûts, bah, il y a les coûts de travaux, en gros c'est la mise en œuvre, hein, mais il peut aussi y avoir des coûts d'acquisition foncière, bon, il y a les coûts d'évaluation éventuellement, mais il y a tout le montage, l'évaluation des incidences qui a des coûts, la recherche du financement a elle-même un coût. Toute l'analyse, le diagnostic territorial, c'est des coûts différents. La mise en place des autorisations, tous les dossiers, c'est du temps, donc c'est de l'argent. Et donc effectivement, si on prend les travaux ne sont qu'une étape de ce processus, mais des coûts, il y en a partout. Le coût de communication, de valorisation, de la communication, de sensibilisation, de... c'est pas le bon terme que je cherche. De... comment dire ? De co-construction, voilà, si on fait de la mobilisation citoyenne, etc., c'est un coût. Et tout ça, moi j'ai un peu peur que ça ne soit pas pris en compte. Alors j'espère que je me trompe totalement, que ça ne soit pas pris en compte et qu'on s'arrête aux entreprises, on n'a parlé que des entreprises, mais la collectivité, si elle veut faire un projet avec de... c'est quoi, je cherche depuis le début, qu'on parle avec les gens, ça s'appelle comment ? Concertation, c'est ça que je cherchais. La concertation, ça peut avoir un coût important. Et donc, c'est là, c'est une difficulté. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'on va s'arrêter souvent à mise en œuvre, parce que le reste, ça peut être dilué, ça peut être fait par différents types d'acteurs. Et donc, bah, le coût du cycle complet, souvent, la plus grosse enveloppe, hein, c'est quand même... Quoique, non, si on est sur la régénération naturelle, donc suppression de la pression, et puis on laisse revenir tout ça, en fait, le coût de travaux devient largement minoritaire par rapport à tout le reste. Et pourtant, c'est important aussi. Donc c'est pour ça que je dis que c'est compliqué, c'est bien d'avoir des gammes, mais déjà, comme tu disais, la répartition, l'identification des différents coûts, même si c'est pas simple, et c'est important.
Et ça, c'est en avant-première.
C'est très très beau, merci. Oui, moi j'ai une question un peu d'anticipation, je ne sais pas comment dire. Dans l'idée de mieux prévenir que guérir, et donc les coûts, je pense à notre montagne, nous on a une belle étrée. Bon, le hêtre ici, on se pose la question de son maintien. C'est une forêt avec des fonctions et des services écosystémiques très importants. On est aux sources du canal du Midi. J'en profite pour faire la pub du territoire. On a des magnifiques hêtres, le hêtre de Saint-Jacques, patrimonial, etc., classés. On fournit de l'eau à la moitié du Lauragais, je pense, de l'eau potable. Donc on a des enjeux importants. Donc on fournit de l'eau via le canal du Midi pour énormément de choses, dont d'agriculture, je suppose. Donc cet être, pour revenir à ce être, malheureusement, on peut se poser la question de son maintien face à des journées comme celle-ci. Et je me pose la question si vous avez eu des travaux, des réflexions sur, du coup, pas de la restauration, mais de l'anticipation et du soutien à l'évolution face à une dégradation attendue. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'on sait s'il est plus intéressant ou... quel coût il y a entre attendre que ça se dégrade et sauver les meubles, entre guillemets, ou anticiper et donner déjà de l'argent, je dirais, pour accompagner en anticipation, encore plus avec de l'arbre, comme on sait, c'est long.
Alors, je vais dire non, j'ai pas de réponse. Je suis assez dubitatif, enfin pas dubitatif, très prudent par rapport à ces anticipations des effets, des changements sur lesquels on viendrait. Effectivement, je ne suis pas spécialisé du milieu forestier, mais c'est des choses qu'on voit, on se dit on va prendre, alors, des fois c'est assez raisonnable, simplement des génotypes un peu plus au bas, plus au sud qu'on va remonter, mais il y a déjà, raconter, le premier colloque rêvé à Avignon en 2008, il y a quelqu'un qui était venu nous présenter du Morbihan, je ne sais plus qui c'était, il a disparu après, qui faisait une opération de restauration, mais que en fonction, vu le changement climatique, il allait implanter des espèces méditerranéennes tout de suite, parce que de toute façon, dans 30 ans, on aura des espèces méditerranéennes. Alors tout le monde a dit non, ne fais pas ça. Donc il faut. Voilà, je serais assez prudent là-dessus. Le hêtre, on avait eu des discussions, c'était, je ne sais plus quel colloque, Forêt de Compiègne. Ils disaient attention, parce que les massifs de hêtres, si on prend théoriquement par rapport aux évolutions de température globale, ils risquent de régresser. Mais attention, le massif. La hêtraie elle-même a un rôle tampon sur les températures, et donc le microclimat, le climat à l'échelle locale, lui, il n'est pas intégré dans les modèles. Et donc c'était un forestier qui disait, oui, peut-être si on regarde la gamme, il risque de dépérir, dans certains cas ça sera vrai, mais en fonction des micro-conditions locales, de la taille du massif qui lui-même fait un rôle tampon par rapport à la température au sol, je ne sais pas. Donc, c'est important, les Britanniques travaillent là-dessus, notamment sur le littoral, c'est sur la compensation, avec des opérations de restauration de milieux de marais littoraux en anticipation de la dégradation liée à l'élévation du niveau de la mer. Et ça rentre dans leur processus de compensation écologique, alors le financement, je ne sais plus. Mais voilà, là, ils ont cette approche d'anticipation. Je pense qu'en France, ça n'existe pas. Mais sur beaucoup de... Attention, encore une fois, à ne pas aller plus vite et puis ça fait la prophétie qui s'auto-réalise. Alors, est-ce qu'il faut... C'est sûr, il ne faut pas laisser tout... S'il y a des données claires sur certains milieux où c'est très clair, on voit l'évolution, il faut agir tout de suite. Mais des fois, il faut faire attention entre les modèles généraux, le modèle hyper-local. C'est complexe, hein, on travaille sur du vivant. Et c'est pour ça que des fois, on arrive à des solutions grises sur certains sujets, parce que, à force de dire « Ouais, mais c'est pas sûr, on sait pas trop, on sait pas comment ça va évoluer », on va nous dire « Hey, on laisse tomber, nous on a une solution technique facile, pouf, on y va. » Et puis on va enlever les hêtres, on va mettre des eucalyptus à la place, et ça va être tellement mieux. Ça brûlera peut-être un peu plus. Donc voilà, c'est des questions, c'est des vraies questions qui se posent. C'est juste fini. En termes de restauration, c'est qu'on se fixe un objectif de référence, un objectif. Est-ce que dans la définition de cet objectif, si on sait que ça va mettre 30 ans à se faire, est-ce qu'on intègre déjà dans l'objectif l'évolution du climat prévisible à ce moment-là, et donc on adapte l'opération au départ en fonction d'un état dans 30 ans, là ça devient, c'est super intéressant, mais encore une fois, ça, c'est très très compliqué. Et il ne faut pas oublier la capacité quand même d'adaptation des écosystèmes, qui existe plus ou moins, mais qui existe.
Juste, donc, Michel Lefort, là, je suis vice-président de l'IGICO. Je voulais juste rebondir sur ce sujet-là, donc on pourra en parler tout à l'heure, parce que j'ai écrit un chapitre d'un bouquin sur les forêts et changement climatique. Mais moi, j'aurais tendance à dire déjà, la première brique, c'est de favoriser l'adaptation, mais il y a des choses à faire sans forcément changer la forêt, déjà qui permettent de favoriser la résilience, notamment la sécheresse. Donc, il y a, indépendamment du fait de changer l'espèce, il y a déjà un certain nombre de choses qu'on peut faire pour essayer de la rendre plus résiliente au stress hydrique, à la chaleur, ce genre de choses. Donc, c'est pas tout ou rien, en fait.
Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps, et je voulais redonner la parole quand même à Delphine Alboui. On a eu un gros échange sur la question des coûts. Alors, vous allez dire que c'est une idée fixe, mais je voulais revenir là-dessus parce que je trouve que c'est assez intéressant. Il a quand même été fait mention de à qui s'adresser, ou en tout cas qui peut, dans le tourbillon de on ne sait pas trop combien ça coûte et c'est très adapté au milieu, concrètement, comment est-ce qu'un élu, un porteur de projet peut se saisir de la question et à qui est-ce qu'il peut s'adresser? Et il me semble qu'il y a des éléments de réponse, au moins, au niveau du ministère. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Oui, tout à fait. Oui, effectivement, c'est un petit peu haché, hein, je m'en excuse aussi. Non, on travaille évidemment sur ce... pour être le plus opérationnel et le plus concret possible. Donc, il y a des travaux qui se font avec le soutien de la LGECO, d'ailleurs, hein, sur le parcours de l'élu. En fait, il y a plusieurs guichets d'orientation possibles. Je pense que le premier, c'est peut-être la direction départementale des territoires qui est censée être dans cet accompagnement et aiguillage sur les projets. Il peut y avoir également l'agence de l'eau du bassin dans lequel vous êtes, qui peut être aussi un guichet d'orientation et surtout de financement. Et il y a également, alors on parle de guichet unique, mais comme vous le voyez, j'en ai déjà cité deux, donc ça relativise le côté unique du guichet. Mais il y a également l'Agence nationale de cohésion des territoires, l'ANCT, qui est représentée dans les territoires, notamment par le préfet, qui dispose d'un site internet avec une adresse mail qui peut être également point de contact. Voilà, donc tout ça reste évidemment à être, à mon avis, amélioré, parce que pour l'instant, il y a aussi d'autres. Le drame de l'administration, c'est que souvent on agit un peu en silo. Donc l'idée, c'est de mettre en coordination un peu tous ces guichets. Il y a également, dans le cadre du PNAC, il y a un guichet d'ingénierie qui s'est formé. Donc le guichet d'adaptation au changement climatique avec le CEREMA, je pense que c'est un opérateur que vous connaissez quand même dans les territoires. Donc le CEREMA, l'ANCT, l'Office français de la biodiversité. La difficulté, c'est que ce guichet unique n'a pas eu de moyens supplémentaires. Hein, donc il y a juste pour l'instant un panel de collectivités qui sont accompagnées. Mais l'idée, c'est évidemment d'aller plus loin sur cet accompagnement qui est évidemment nécessaire. Après, il y a des programmes comme les SNC2R, donc les sites nature de compensation, qui ont des... Voilà, tout ça est quand même relativement émergent. Hein. On est en cours de déploiement. On peut vous donner des contacts. Il y a un directeur de projet au ministère qui a été créé, qui est justement pour lutter sur ce travail en silo, qui est sous le pilotage de deux directions au ministère, donc la mienne, et également le commissaire général au développement durable. Voilà, parce que l'idée, c'est évidemment, il faut décloisonner. Mais je pense qu'au niveau territorial, encore une fois, les deux guichets les plus importants restent la DDT et l'Agence de l'eau. Et après, charge à nous de mieux communiquer sur, à travers des livrables d'accompagnement. On travaille aussi sur des catalogues pour donner à voir des projets, pour justement essayer d'aiguiller sur comment mettre le pied à l'étrier, comment démarrer sur un projet. Et dans ces catalogues-là, on insère des fiches pratiques pour justement vous aider à mettre en place des projets.
Si.
Ouais, je ne sais pas si j'ai complètement répondu à la question, mais en tout cas, on essaie, parce que c'est vrai que nous, on est un peu loin des territoires, hein, côté ministère, il faut quand même le reconnaître. Il y a pas mal d'échelons entre nous. mais l'idée, c'est d'être à l'écoute de vos besoins. Et d'ailleurs, on va animer une réunion, un séminaire à l'automne avec des lauréats de projets de solutions fondées sur la nature qui ont été aidés par les agences de l'eau et l'Office français dans le cadre de la solidarité, ce qu'on appelle la solidarité interbassin pour l'outre-mer. Et on va rappeler des lauréats pour justement travailler sur la question, par exemple, du suivi de l'évaluation des projets SFL, comment on suit les projets dans le temps, et on invitera également des scientifiques. Donc on essaie d'avoir ces moments de rapprochement avec les collectivités, les porteurs de projets. Et d'ailleurs, j'y pense aussi, dans la feuille de route, on a un gros sujet sur l'accompagnement des centres de ressources qui sont abrités à l'Office français de la biodiversité, et qui peuvent être également des relais techniques de soutien dans le cadre de vos projets.
Juste, je rajouterais quand même un guichet entre guillemets, enfin je sais pas ici, mais c'est les agences régionales de la biodiversité, qui sont quand même des relais territoriaux. Moi, celle que je connais, hein, par exemple, sur les financements. Alors, moi, j'aurais une question quand même, je ne sais pas s'il existe des financements auxquels les collectivités, par exemple, peuvent faire appel, pas dans le cadre d'un projet, mais pour déjà définir ce qui pourrait être fait sur leur territoire en termes de restauration, ça pourrait être intéressant, ça existe peut-être. Et par exemple, l'ABB, l'Agence Bretonne de la Biodiversité, elle a un comité des financeurs. C'est-à-dire que plutôt que d'aller taper avec son projet à l'Agence de l'eau, à la DREAL, à la DDTM, c'est envoyé, on passe par l'agence, qui réunit tout le monde, et chacun dit pas, quoi que si tu arrives, sinon dit je prends, enfin bon, c'est un peu ça, mais c'est ben, chez nous, ça rentrerait dans tel appel d'offres. Chez nous, non, c'est pas moi, j'ai eu des projets comme ça. On finance plus ce type de projet, vous embêtez pas à venir chez nous, c'est pas la peine, ça c'est bien aussi. Et par contre, des financeurs auxquels on n'aurait pas pensé disent, bah tiens, nous on a un truc, ça pourrait rentrer là, ça peut nous intéresser, ça marche très très bien. Alors je sais pas si ça existe dans toutes les agences, mais donc à l'agence, à l'ABB, parce que nous c'est un nom à part, ça fonctionne très bien et c'est vraiment des guichets qui peuvent être super intéressants à l'échelle régionale.
Ouais, t'as tout à fait raison, c'est exactement le genre de procédé qu'on essaie de porter également. Alors je pense que ça existe aussi dans d'autres agences régionales de la biodiversité. Alors je les ai pas, mais celle de Normandie est très connue, je crois que c'est une des premières. Mais typiquement, voilà, il faut vraiment mettre tout le monde autour de la table, c'est hyper important. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on disait au début, hein, il y a une opacité du qui finance quoi. Il faut aussi que les financements restent... simple, parce que les montages, voilà, s'il y a des financements croisés, c'est quand même horriblement compliqué. Donc s'il peut y avoir des chefs de file de financement, il faut réfléchir aussi à toute cette construction. Alors nous, je fais juste une parenthèse pour ce qu'on appelle les paiements pour services environnementaux, concernant aujourd'hui le monde agricole. La partie diagnostic et montage de projet est compris dans l'aide de l'Agence de l'eau. On est évidemment conscient que toute cette ingénierie de projet est très chronophage, demande des moyens également. Et donc ça fait partie des réflexions qu'on a sur comment également avoir cette amorce qui est financée par le public pour justement aider à ce que les projets sortent en fait.
Et juste pour préciser, Sébastien Guibert de la région Occitanie. Sur l'ARB Occitanie, on a en effet une page dédiée au financement qui identifie toutes les possibilités en termes de dispositifs existants pour accompagner les porteurs de projets.
Et il y a aussi une plateforme aide-territoire qui oui, centralise aussi des informations à ce sujet. Merci, je ne sais pas si on a encore un tout petit peu de temps ou pas. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous avez faim? Faim ou une question?
Alors, j'ai faim d'une réponse par rapport à la question suivante, donc qui est adressée à Madame Alboui. Pour faire tout ça, il faut des personnes compétentes. Et donc, j'en viens à la formation, puisque vous avez parlé de la formation au début dans la présentation. De tout ce qui était mis en œuvre. Donc là, je suis dans le cadre de la formation des jeunes et je m'inquiète parce que en France, 30% des personnes travaillant pour la biodiversité et tout ce qui est écologie proviennent des BTS GPN, Gestion Protection de la Nature. Et à ce sujet, on a l'État français qui modifie tout ce panel de formation et donc le ministère de l'Agriculture a revu les intitulés de formation pour les transformer en BUT, Bachelor Université Technologie, dans lequel le BTS GPN n'existe plus. Donc s'il n'existe plus, on ne forme plus les futures personnes impactantes dans la société pour toutes ces transitions et toute cette biodiversité. Et donc si on n'a plus la formation, plus besoin de travailler sur la nature. C'est un peu caricatural, je m'en excuse. Mais quid de cette évolution de la formation du BTS en BUT, Bachelor Universitaire Technologie, en lien avec la gestion et la protection de la nature, qui fera les futurs acteurs économiques de notre société.
Alors, je ne suis pas spécialiste de ce créneau, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on est parfaitement lucide. Enfin, plusieurs choses. On est parfaitement lucide des besoins. Il y a eu des études qui sont sorties, notamment via le PGE, sur laquelle on s'est fondé pour argumenter la nécessité d'aller beaucoup plus loin sur la formation. Il y a, alors, dans la feuille de route, en fait, on a sciemment réintégré le volet formation qui est porté par l'Office français de la biodiversité à travers le fonds LIFE, un fonds qui s'appelle LIFE Biodiv France, et qui va justement, alors c'est beaucoup plus global puisque ce sera une réflexion et un appui sur les métiers en lien avec la biodiversité. Donc le génie écologique et l'ingénierie n'est qu'une partie de cet ensemble, mais en tout cas on a bien tracé ce besoin-là de formation est vraiment initial, formation continue, enfin sur les deux volets. Donc la feuille de route, en tout cas, le reprend à son compte d'une certaine manière. Et ce sera discuté, et c'est aussi l'intérêt de cette feuille de route, je ne l'ai pas dit au début, mais on aura un comité d'orientation stratégique à l'automne qui sera présidé par la ministre et avec une représentation interministérielle, dont le ministère de l'Agriculture, le ministère des Finances. Et donc ce sujet-là pourra être évoqué au plus haut niveau, comme on dit, pour savoir comment on fait pour assurer ces besoins qui sont évidemment exponentiels et dont on a conscience. Alors après, sur l'agriculture, il y a un autre vecteur aussi qui serait important. C'est qu'on a demandé un rapport d'inspection conjoint, ministère de la Transition écologique et corps d'inspection de l'agriculture, parce que le ministère de l'Agriculture, effectivement, est un ministère de formation, alors que le ministère de l'Écologie ne l'est pas, au-delà de la tutelle de quelques établissements. Et donc, c'est important également d'avoir ce dialogue et ce diagnostic, en tout cas, qui sera fait par les corps d'inspection, et on ne manquera pas d'avoir des recommandations à la sortie. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà, donc, et puis après, il y a au niveau local, la IGECO qui porte notamment des campus métiers, notamment en Occitanie. Et alors ce sont des démarches locales, d'initiatives locales. Donc l'État, normalement, en tant que tel, n'a pas s'immiscer, si j'ose dire, mais bon, on soutient. Alors, on soutient à notre niveau, et dès qu'on pourra soutenir des initiatives locales, on fera. Voilà, mais c'est, et on a également, et je terminerai par ça, la planification écologique à travers ce qu'on appelle le SGPE, le Secrétariat Général de la Planification écologique, qui a quand même été relancé récemment, puisqu'on a un nouveau SGPE qui a été nommé. Et il y a un volet sur la formation et compétences, et on est évidemment très vigilant à faire reconnaître tous les métiers autour de la biodiversité, et notamment ceux autour du génie écologique et de l'ingénierie. Et d'ailleurs, Bercy en est conscient, parce que finalement, dans le cadre de la réindustrialisation de la France, si on n'a pas de bureau d'études pour pouvoir instruire les dossiers, ben, on aura des points de blocage très rapidement. Donc voilà, ça commence à intéresser d'autres ministères que d'autres, parce que si on ne veut pas bloquer économiquement des projets, ben, il faut bien des écologues, il faut des chefs de chantier, des chefs de projet, ben, il faut toute la chaîne en fait. Et donc ça, voilà, c'est un sujet. Alors après, sur la sémantique, bah, effectivement, il y a des choses qui sont renommées, il y a des mots qui deviennent un peu tabous. Bon, bah, il faut qu'on soit vigilant collectivement là-dessus pour justement ne pas tomber dans un novlangue où nos enjeux soient relégués ou soient minimisés, quoi. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question, mais c'est vrai que ça va démarrer. En fait, on attend beaucoup du LIFE Biodiv France qui va apporter un éclairage vraiment très fort sur les métiers de la biodiversité. Et on a besoin également de partager les parcours, les formations qui existent, c'est vraiment très important. Et tout ça, je pense, va mûrir et sera de plus en plus connu. Surtout qu'on le dit souvent, c'est de l'emploi délocalisé qui n'est pas délocalisable, c'est l'emploi local. Donc il y a une dimension économique évidemment hyper importante aussi. Et puis en plus de ça, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui seraient intéressés par ces formations, donc il faut vraiment qu'on le fasse savoir.
Juste sur le live body, le volet compétences et formations est aussi comporté par la EGECO, on est très impliqué dans le sujet, et on a fait un travail sur la formation. Alors par contre, moi, le passage des BTS en BUT, j'en ai pas entendu parler, parce que c'est quand même deux structures différentes, le BUT est un diplôme universitaire, le BTS ne l'est pas. Et c'est vrai que moi j'ai pas vu ça passer encore, donc c'est la chose qu'il faut qu'on...
Septembre 2026, les premiers BUT d'orientation agricole ouvrent avec une...
Donc mais, septembre. Mais est-ce septembre que c'est... 2026, ouverture des BUT agricoles qui seront choisis. Première vague. Deuxième vague, septembre 2027.
Mais ça veut dire que les BTS disparaissent ?
Ça veut dire que comme certains diplômes qu'il y avait dans le temps, CAP qui ont disparu...
Non, mais la question c'est, est-ce que les BTS GPN disparaissent ?
L'orientation, c'est de passer à l'échelle européenne, et c'est très bien. Ça, c'est une bonne idée. Et c'est ce qu'il faut faire pour les étudiants, nos enfants, qui deviennent les futurs adultes, donc d'avoir une harmonisation européenne. Et donc, à terme, le BTS va disparaître. Et c'est une réalité, même s'il y aura une période transitoire où le BTS sera quand même donné comme certificat, sachant que ça ne sera pas une finalité de formation. Donc pour tous les jeunes, dès que ce n'est plus une finalité de formation, comme pour leurs parents, il n'y a plus d'intérêt à faire cette formation. Donc le BUT est l'avenir, et c'est très bien, de surtout ne pas oublier l'écologie et la biodiversité au travers d'un BUT spécifique que le ministère de l'écologie et de la transition peut porter et être une bonne source au niveau du ministère de l'Agriculture pour se faire valoir de son existence. Donc c'est des réalités. Moi j'ai les 6 thèmes qui vont démarrer en septembre de BUT agricole, plus 3 thèmes qui vont démarrer en septembre 2027. Et donc la machine est en route et le BTS va disparaître. C'est très bien.
Je peux répondre ? Non, j'ai une question. Après, la question, c'est le BTS, etc. Mais si le contenu, simplement, est intégré... Alors, par contre, c'est quand même important parce que ça passe au système universitaire et c'est dans les DUT, dans les IUT, je ne vois pas comment ils vont accueillir plus. Il y a déjà des DUT agronomiques. J'en suis diplômé, donc... voilà. Mais ça ne veut pas dire que... ce qui compte, c'est que le contenu, si le diplôme change de nom et passe à Bac plus 3, obligatoirement. De toute façon... Les BTS GPN, il y en a quand même beaucoup qui font une licence pro derrière, donc ça consiste à une intégration. C'est ce qui s'est fait pour les DUT quand on est passé en BUT. Donc ça ne veut pas dire que le BTS GPN disparaît obligatoirement. Si le contenu reste et la finalité qui a été un peu dégradée au cours des dernières années reste, c'est pas un problème. S'il existe vraiment, et ça va dépendre, mais par contre, comment ça va être intégré au système universitaire, ça, c'est une autre question. Et il y a quand même toute une gamme de formations qui existent, hein, et donc ça c'est un sujet sur lequel on travaille depuis de nombreuses années, depuis les ouvriers de génie écologique jusqu'au master en ingénierie écologique, on va dire. Il faut pas regarder ce qu'il y a un master qui s'appelle master d'ingénierie écologique tout court en France, et c'est de l'ingénierie mécanique destination écologique en Corse. C'est tombé dessus, c'est assez bizarre. Et donc c'est pour ça qu'on a fait tout un travail de recensement de l'ensemble des formations, de l'ensemble des BTS, de l'ensemble des licences pro, de l'ensemble des masters, de l'ensemble des diplômes d'ingénieurs. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Alors effectivement, il faut qu'on regarde ça sur l'évolution du BTS en BUT. Mais par contre, je ne vois pas comment ça va pouvoir se maintenir dans les lycées agricoles, si c'est des BUT. Ou alors c'est des bachelors, mais pas des bachelors universitaires.
C'est la solution, je pense. Le bachelor privé...
Non, parce que bachelor, ça existe.
Oui.
C'est Bac plus 3, mais bachelor universitaire, c'est par une université. Et pour l'instant, les BTS ne sont pas faits dans un cadre... Les universités n'ont rien à voir là-dedans.
Donc la crainte des BTS, c'est normal, ils vont disparaître. Mais nous, on commence à travailler avec l'université Jean-François sur Champollion en septembre 2025. On lance une troisième année de licence qui s'appelle STAN, Sciences et Technologies Appliquées à la Nature, parce qu'on sait très bien que si on n'est pas accompagné par l'université, qui peut seule délivrer un diplôme de licence, on va disparaître.
Il y a un niveau, c'est-à-dire que les BTS GPN, c'est une très bonne base, moi je recrute pas mal d'anciens GPN, où on a besoin d'un vrai développement de l'offre, c'est la licence pro. Parce que des licences pro naturalistes, c'est qu'il y en a, allez, il y en a 4-5, il y en a 3-4 de très bien, il y a d'autres choses moins bien. Voilà, et là il y a un vrai levier parce que le niveau licence pro, naturaliste. Il y a, pour être chargé d'études naturalistes, il n'y a pas besoin d'un master. Voilà, c'est ce que je dis à mes étudiants master. Hein. Par contre, c'est un niveau où il y a besoin de beaucoup de monde. Et l'offre de formation de qualité en licence pro, avec une labellisation à EGECO, enfin, quand elle existera, c'est vraiment un levier. On a besoin de développer l'offre de formation à ce niveau-là pour fournir les bureaux d'études en main-d'œuvre, en chair à canon. En main-d'œuvre qualifiée, là, il y a un vrai besoin d'un développement. Et c'est vrai que c'est quand même dommage, on avait déjà fait la remarque au secrétariat d'État à la biodiversité que le ministère de l'écologie n'est pas de levier direct sur la formation, que les BTS-GPN dépendent du ministère de l'Agriculture, c'est quand même assez paradoxal. Et c'est quand même vraiment dommage que le ministère de l'écologie n'ait pas la possibilité d'avoir des actions directes sur le développement des offres de formation. Mais bon.
Merci beaucoup.
Est-ce qu'il reste d'autres questions peut-être recentrées sur le sujet ou alors on va aller manger ?
Moi j'en avais une.
Ouais.
J'avais une remarque simplement. C'est... Alors, une remarque question, j'en sais rien, sur la question budgétaire. Ah oui, pardon, mais il faut qu'on passe sur la question budgétaire des travaux. Moi ce qui m'interpelle, c'est que c'est toujours des temps courts. Enfin, c'est un temps court qui est donné. Et je te donne un peu mon recul depuis 15 ans. Moi, j'ai repris une entreprise de travaux de génie écologique au démarrage, quand on faisait du reméandrage. On avait des contrats sur pluriannuels. Et donc, on prenait le cours d'eau du début à la fin. Et puis, on utilisait, par exemple, les végétaux sur place pour faire des fascines naturelles. Enfin, on n'utilisait que des techniques assez simples. On utilisait des végétaux, on faisait de la plantation. Et tu vois, il y avait une adaptation constante qui se faisait du cours d'eau et du début à la fin. Et effectivement, en termes de coûts, je pense que, comparé à ce qui se fait aujourd'hui, qui sont sur des temps très courts, qui est typiquement du terrassement, il y a un biais qui est très, très négatif. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans les chantiers de génie écologique, on est obligé de comparer les solutions grises et les solutions de génie écologique sur le même espace-temps. Et moi, ça m'interpelle un peu parce qu'aujourd'hui, on travaille avec du végétal et on a besoin de l'adapter dans le temps. Enfin, vous le savez, on travaille avec des espèces exotiques envahissantes. Très souvent, on a besoin de temps pour les traiter. Enfin, il y a plein de sujets sur lesquels on a besoin de traiter et d'adaptation aussi de nos techniques. Et donc voilà, je voulais juste vous interpeller à votre retour là-dessus.
Et ça vient de qui ?
Ça vient de qui ?
Qui fait ? Enfin, justement, c'est une vraie question, j'en sais rien. Comment t'expliques toi, cette évolution qu'on vous demande d'intervenir sur un temps court ?
Oh, je pense que c'est les maîtres d'œuvre qui veulent avoir une solution rapide, efficace, dans une durée, avec un budget clair.
Oui, parce qu'il y a une question de financement aussi derrière. C'est qu'aujourd'hui, c'est un des éléments qu'on met en avant, mais en fait, quand vos projets, la plupart des projets qui sont subventionnés aujourd'hui, les délais de subvention, c'est sur 5 ans. Donc c'est-à-dire que tout ce qui est travaux, c'est couvert, tout ce qui est gestion, entretien, ça ne l'est pas. Ce qui pose une question pour la pérennité du modèle derrière. On l'est moins si on commencerait à se développer sur des questions de financement par des acteurs privés, que ça soit ça dépend des mécanismes, mais si on part sur le Crédit Biodiversité à la Française, qui est en fait une UCRR adossée, donc un hectare restauré sur 30 ans et géré sur 30 ans, qui est dans la décision d'agrément, ce qui est certifié par l'État, et ce que l'acteur, en fait, l'opérateur vend par la suite. On a moins cette question et ce besoin derrière d'avoir une question de quantification. Mais nous, en tout cas, de ce qui était ressorti, nous, des travaux qu'on avait fait, encore une fois, sur les solutions fondées sur la nature et pas sur la restauration, j'espère qu'on aura fait la distinction aujourd'hui, c'était vraiment ce qui était ressorti. C'était cette nécessité voilà, de pouvoir couvrir l'ensemble des coûts et de pouvoir les subventionner en partie. Parce que ça reste une partie, en fait, la plupart du temps, ça reste des actions, quand on parle à l'échelle des collectivités territoriales, qui sont des actions volontaires. Donc en fait, elles les mettent en œuvre parce qu'on a une capacité de financement derrière. Mais si le projet n'était pas subventionné, on le voit, on revient à la discussion de ce matin, en réalité, c'est quand on se place d'un point de vue volontaire, s'il n'y a pas d'intérêt derrière et pas de capacité de financement, enfin d'intérêt économique et pas de capacité de financement, et en fait, on va préférer à choisir une alternative qui, elle, va permettre de générer un revenu et de développer le territoire en dégradant au passage le capital naturel. C'est pas c'est une dynamique. J'ai aucun problème avec le fait qu'il faut concilier les enjeux justement de développement territorial. On parlait notamment tout à l'heure de la nécessité de la transition énergétique, de passer sur des modèles de décarbonation, des choses comme ça. Je me perds un peu dans les raisonnements, mais c'est des approches qu'il va falloir mener de front. Mais il faut aussi être en mesure de se positionner du point de vue du,
des impératifs qui, du client derrière, enfin du maître d'ouvrage derrière, et de ses besoins.
C'est juste en complément, ça, enfin, j'ai tracé un gros trait noir, hein. C'est pas le cas partout, mais effectivement, je trace un gros trait noir de façon extrême, mais ça a aussi des effets pervers, notamment sur la capacité des entreprises telles que les nôtres, hein, parce que moi je suis parti du NEP, et effectivement on a des entreprises spécialisées en génie écologique et pas en terrassement. Et ça a des effets pervers sur effectivement la formation de ces entreprises, les compétences qu'on avait. Avant en fait on avait du temps pour le faire. Et donc on savait avec le temps gérer le vivant, on savait adapter les choses. Aujourd'hui en fait j'ai souvent l'impression que dans les chantiers de génie écologique il faut être rapide, il faut avoir une main d'œuvre extrêmement présente et peu qualifié pour pouvoir faire des travaux très rapidement et pour répondre à un budget qui soit le plus serré possible. Et en fait, il y a un effet pervers dans tout ça aussi, quoi. Il faut en avoir conscience, quoi.
Parce que je... Alors, on va éviter de casser le décor. Mais on se pose aussi la question sur quels sont les objectifs, justement, et ça sera par exemple un des sujets qu'on pourra aborder dans le cadre du plan national de restauration. Mais, est-ce que, comme dans le cadre du plan forêt, par exemple, on est sur un objectif chiffré quantitatif ou sur un objectif plus qualitatif de milieu? Enfin voilà, après, c'est quels sont derrière les impératifs du maître d'œuvre qui, je pense, explique en fait ce raccourcissement de la durée qui, en effet, se réalise au détriment du projet.
Je pense qu'il y a encore un autre sujet dans le listing qui vient d'être fait, c'est... d'une certaine façon, une certaine obligation de résultat sur certains chantiers de génie écologique, notamment quand on fait lien avec du réglementaire, qui, l'obligation de résultat qui, par définition, n'est pas forcément ancrée dans le processus de restauration. Et alors, je vous propose qu'on arrête là pour ce matin, mais globalement, si je peux me permettre une synthèse, j'ai l'impression qu'on glisse gentiment dans l'oubli de l'importance du processus. On a commencé par ça, Sébastien, c'est la première chose qu'il a dit, et je pense que c'est assez capital de bien l'avoir en tête. La restauration écologique, c'est avant tout un processus. C'est pour ça que c'est difficile à chiffrer, c'est pour ça que c'est difficile à mettre en œuvre. Et je pense que c'est important de sensibiliser et de former toutes les parties prenantes à cette question, l'importance du processus. J'aurais beaucoup aimé qu'on discute aussi de la superposition des enjeux, notamment dans la planification territoriale. On en a parlé un petit peu ce matin sur la parcelle, mais où est-ce que je fais quand je dois faire de l'habitat, où est-ce que je fais quand je dois atteindre des objectifs qui me sont auxquels je suis soumis en tant qu'élu de neutralité carbone, comment je fais pour faire tout sur un espace défini. À mon avis, on aurait beaucoup de choses à dire sur l'intérêt des solutions fondées sur la nature. En fait, on peut rejoindre, il y a plein de synergies à trouver. Je vous suggère de discuter de tout ça pendant la pause de midi, parce que, notamment au niveau des élus, il y a beaucoup de billes à aller chercher sur les synergies et en fait tous les services que peuvent vous rendre un chantier de restauration écologique pendant tout son processus, sur plein d'objectifs que vous avez au niveau du territoire. Revenir très rapidement pour conclure, hein, sur quand même la question des coûts. Vous l'aurez compris, c'est compliqué. On n'a pas des réponses systématiques. Par contre, il y a plein d'acteurs qui peuvent vous aider, qui peuvent vous apporter des éléments, plein d'entreprises qui sont très qualifiées pour le faire, avec, mine de rien, beaucoup de recul sur les choses qui marchent, les choses qui ne marchent pas, les choses qui seraient intéressantes à prolonger. Donc on a mentionné pas mal d'acteurs qui sont intéressants à aller consulter. Vous en avez au sein de la IGECO, hein. On a tout un panel d'acteurs qui sont ravis de répondre à tous ces enjeux-là. Tout le sujet de la feuille de route dont on parlera au milieu de l'après-midi, hein, la feuille de route qu'on va vous présenter et sa déclinaison en Occitanie, qui doit aussi permettre d'amener des réponses, et on en reparlera à partir de 16h. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention ce matin. Je crois que le repas est servi. Merci.